Vous écoutez RTL.
RTL Matin, 7h, 9h.
Les petits déjeuners présidentiels.
Avec Yves Calvi.
Aujourd'hui avec Emmanuel Macron, 7h36. Merci d'écouter RTL. On accueille maintenant François Langlais pour l'Angleco. Bonjour François.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
François, vous avez décortiqué le programme économique d'Emmanuel Macron.
Oui, nous avons désormais un programme Macron, un programme charpenté, cohérent. Il vise à libéraliser l'économie, à réformer profondément l'État-providence et le système de protection sociale français hérité de l'après-guerre. Plus de flexibilité, mais aussi plus de sécurité, c'est ce que vous visez. En ce sens, vous voudriez nous emmener, Monsieur Macron, nous, les Français buveurs de vin, plutôt chez les buveurs de bière, au nord de l'Europe, au pays de la social-démocratie. C'est un voyage raisonnable que vous nous proposez. Alors, on pourrait bien sûr critiquer vos hypothèses ou vos additions budgétaires. Ça n'est pas dans ce débat-là que je voudrais m'engager ce matin, mais dans un autre qui me semble encore plus important. Votre programme, votre discours économique ignore la question de l'identité, du patriotisme économique, du besoin de frontières nationales. Partout dans le monde, le nationalisme réapparaît, souvent sous le visage grimaçant du populisme. Mais si les populistes progressent, est-ce que ça n'est pas parce que les dirigeants politiques et économiques, comme vous, refusent de répondre à la demande de frontières nationales et qu'elle continue à défendre mordicus la progression d'une Europe fatiguée, d'une mondialisation souvent inégalitaire. Tout ça pose deux problèmes. Un, cette lacune me semble vous fragiliser dans l'hypothèse vraisemblable d'un second tour face à Marine Le Pen pour gagner le vote populaire, qui est le plus sensible à ces thèmes et non sans raison. Deux, êtes-vous prêt, je fais écho à la question d'Yves tout à l'heure, êtes-vous prêt intellectuellement, politiquement pour le monde de Trump et du Brexit, du nationalisme chinois, du retour de la Russie, le monde de la résurgence du nationalisme et du choc entre les puissances? Pour résumer, Monsieur Macron, avec ce programme qui est bien raisonnable et bien conforme, j'allais dire, aux valeurs du monde d'avant, est-ce que vous ne partez pas à la chasse à l'ours avec un fusil en plastique?
Alors, la question que vous posez est essentielle. Si les rationalistes, les défenseurs de la liberté considèrent que la bataille est perdue et qu'en effet l'ordre du monde est aujourd'hui défini par les autoritaires, les nationalistes et les tenants de la thèse du repli, on est déjà mort.
Ça n'était pas mon propos.
C'est pas le vôtre, mais non. Je vous dis, compte tenu de ce que je crois que la bataille vaut la peine d'être menée et je la mènerai jusqu'au bout. La deuxième chose, c'est que vous avez raison de pointer les débats tels qu'ils sont en train de, aujourd'hui, monter dans tout l'Occident, qui sont des débats qui nous ramènent vers un patriotisme économique, vers la fermeture des frontières, vers des mesures de rétorsion économique aux États-Unis.
Parce que la bande politique est là, dans nos pays.
Permettez-moi de répondre à ce sujet. D'abord, je pense que ce ne sera pas faisable. Je pense, par exemple, que M. Trump ne pourra pas appliquer son programme économique.
Regardez, jusqu'ici, mais un tweet,
non,
et il rapatrie une usine.
Jusqu'ici, il a fait semblant de rapatrier une usine. Vous le savez, comme moi, très bien. Et d'ailleurs, si vous regardez...
Écoutez, j'observe que les patrons sont très dociles. Pendant des années, ils nous ont dit...
la mondialisation est... vous répondre.
Non,
sur ce sujet...
quand même que les patrons sont devenus très dociles aux États-Unis. Pendant des années, ils nous ont dit la mondialisation est inéluctable.
Je ne suis pas un tenant de la mondialisation heureuse. Je dis simplement que M. Trump a fait un tweet sur une usine qui était déjà en train d'être relocalisé aux États-Unis d'Amérique. Donc il ne faut pas non plus se tromper sur la partie de communication qu'il y a derrière cette affaire. On verra dans la durée, parce que l'Amérique, comme nous, a le même sujet. Tout ce dont nous sommes entourés aujourd'hui est produit mondialement. Je veux bien que demain, on m'explique, et c'est le débat que j'aurai avec Marine Le Pen, qu'il faut en effet faire du patriotisme économique, qu'on va fermer les frontières, la belle affaire, le portable avec lequel vous téléphonez, il n'est plus fait en France. Le téléviseur que nos concitoyens regardent, il n'y en a plus qui sont faits en France.
J'ai une question très concrète
et
là-dessus.
Il y a une spécialisation. Non, mais il y a une spécialisation de notre économie mondiale qui s'est faite, qui fait qu'aujourd'hui, un patriotisme économique complet, ça ne fonctionne pas.
Alors,
sauf à vouloir...
prolongeons un instant.
Sauf à vouloir détricoter l'économie mondiale et donc, là aussi, créer de la baisse de pouvoir d'achat, de la baisse pour les épargnants de tous nos pays et une vraie crise économique mondiale.
Whirlpool, vous connaissez cette entreprise, elle fait de l'électroménager, elle a fermé il y a quelques jours sa dernière usine d'électroménager en France. Ça se passe, vous, président. Qu'est-ce que vous faites?
Alors, ce que je propose sur tous ces sujets, c'est
la
pas...
la délocalisation, ça part en Europe de l'Est, bien sûr.
Whirlpool à Amiens,
à Amiens,
je rappelle.
Qui est une ville que je connais bien. Mais c'est... je ne propose pas de faire ce qu'on fait depuis 20 ans. Parce que depuis 20 ans, on dit, moi, président de la République, je me mets en travers de la route et elle ne partira pas. La belle affaire. Vous en avez déjà vu une qui est restée parce qu'un président de la République a dit qu'il l'arrêtait? Et demain, vous pensez que qui que ce soit élu, même Marine Le Pen, elle empêchera cela ?
Donc vous dites on ne peut rien faire.
Mais je ne dis pas on ne peut rien faire, je dis comment on construit le vrai patriotisme économique ? De deux façons. Un, le vrai patriotisme, c'est d'être compétitif. C'est-à-dire, c'est de savoir produire, d'avoir de l'excellence. Et là, le problème français, c'est un problème de spécialisation, c'est un problème d'innovation, d'investissement.
C'est donc du long terme, mais à long terme,
non,
on est tous morts.
C'est pas que du long terme, je suis désolé de vous le dire. C'est ce qui a été fait déjà depuis plusieurs années. C'est ce que je propose d'accélérer et d'intensifier, parce que j'ai un programme de compétitivité. Quand on innove, quand on investit dans son économie, on maintient de la capacité à produire, à embaucher sur le territoire national. Deuxièmement, je propose de défendre et de protéger. Je l'ai fait comme ministre, là aussi. Preuve encore, si besoin en était, que je n'ai pas changé. C'est qu'il faut protéger, mais au niveau européen. Parce que si on regarde l'économie mondiale, où sont les risques de délocalisation, d'attaque, etc. face à des grandes puissances, quand vous avez évoqué
Monsieur
le patriotisme
Macron,
économique.
Si les usines partent en Slovaquie pour les Français,
alors attendez, ça c'est la troisième étape du raisonnement. Moi je vous parle,
c'est
vous m'avez pas.
C'est essentiel.
J'essaie de répondre au début de votre question qui est fondamentale.
Non mais la question c'est l'emploi en France. Est-ce qu'on peut dire à un employé français, votre usine part en Slovaquie, tout va bien, c'est l'Europe.
Non, je ne suis pas en train de dire ça, je suis en train de dire comment on arrive à construire un vrai patriotisme économique. Un, en étant compétitif. Deux, en ayant une Europe qui protège. Vous me parlez de la Russie et de la Chine. Je vous dis, le bon niveau de protection, il est européen. L'Europe ne l'a pas assez fait. Je suis pro-européen, mais je suis exigeant avec l'Europe. Donc, quand j'étais ministre, j'ai défendu des mesures anti-dumping face à la Chine sur l'acier. Dans mon programme, je propose d'aller beaucoup plus loin, d'aller vers un vrai, ce qu'on appelle Buy European Act, et donc un vrai programme de solidarité européenne sur l'achat, la production, face aux États-Unis, à la Chine, à la Russie et à tant d'autres, ce qu'on ne fait pas assez aujourd'hui, alors qu'on peut le faire, et d'avoir une vraie protection. Et troisième sujet qu'il faut ouvrir, c'est comment au sein de l'Europe, ça n'est pas le moins-disant socialement ou fiscalement qui gagne.
Et c'est ça ce qui ne va pas. Par exemple, vous avez une proposition très ambiguë.
Non, j'ai pas une proposition ambiguë.
On peut les accueillir, mais seulement pour un an.
Je dis,
en fait, ça ne règle rien.
Non,
je réduis
la durée. Je dis, on doit augmenter le niveau. Non, attendez, on doit augmenter le niveau de protection sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est bien pour dire, ils doivent être payés comme les Français ou comme les travailleurs.
Mais
qui
la règle est celle-là dans la directive. Le problème.
Ça n'est pas la réalité.
Non, le problème, c'est un, les contrôles, mais ils ont été renforcés. J'ai eu l'honneur de porter une loi qui les a énormément renforcé. Deux, c'est qu'il y a des mesures de contournement parce que dans certains pays qui ont un salaire minimum pour juste une partie des salariés, comme l'Allemagne, eh bien, il y a un contournement de la directive et on peut embaucher des salariés détachés en dessous du salaire minimum. Et c'est ça que je veux corriger, parce que c'est ça qui est un problème. En même temps, quand j'entends Mme Le Pen dire « moi je supprimerai les travailleurs détachés », je vous invite à regarder la réalité. La France doit être le troisième pays qui fournit des travailleurs détachés. Donc vous irez expliquer dans tout l'Est de la France et dans tout le Sud qu'on va arrêter les travailleurs détachés, vous aurez des millions de chômeurs. Donc c'est plus compliqué que cela, le cours du monde. Et donc de grâce que les défenseurs de la liberté, de la raison, n'abandonnent pas. Donc moi, je ne céderai pas. La question m'était posée au début.
Encore faut-il qu'ils aient des solutions à proposer.
Oui, mais la vraie différence, et c'est pour ça que le programme que je propose est un programme qui, en même temps, qui libère, protège. Le problème qu'ont eu les États-Unis d'Amérique, qu'a eu la Grande-Bretagne, c'est qu'ils étaient dans l'ultra-libéralisme. C'est qu'ils ont proposé une histoire de mondialisation heureuse. Et c'est qu'ils ont arrêté toutes les protections. La Grande-Bretagne, quand j'étais ministre, elle me disait « Nous, on n'est pas pour corriger le dumping chinois parce que la Chine, c'est un partenaire important. » Bilan des courses, ils ont tué 13 000 emplois à Port Talbot sur la sidérurgie. Donc moi, je ne crois pas à la mondialisation heureuse. Je crois à une vraie protection, mais au bon niveau. Et on ment à nos concitoyens si on leur explique que le diktat d'un président, quel qu'il soit, peut maintenir une usine dans une ville française. Ça n'est pas vrai si cette usine perd de l'argent et si cette usine est dans un espace économique qui n'est plus pertinent.
La vraie
question, c'est de protéger les individus et pas les emplois d'hier. Et donc, protéger les individus, c'est être sûr qu'ils auront un bon système de chômage. C'est être sûr qu'on va les former à faire quelque chose d'autre et non pas les laisser dans le chômage de longue durée. Et c'est être sûr qu'on est capable de recréer les emplois d'aujourd'hui et de demain dans toutes les régions qui souffrent aujourd'hui. Tout ce qu'on ne sait pas faire depuis 35 ans.
Merci à François Langlais qui vous a interrogé sur votre programme économique.